Une famille, des enquêtes, des assassinats ciblés, c'est la règle de trois de Ronen Bergman. En Pologne, la Shoah a frappé la famille de sa mère de plein fouet. Les seuls qui ont survécu, sa mère et ses grands-parents, ont fui après avoir été dénoncés à la Gestapo. Son grand-père est mort dans les bois pendant l'évasion, inhumé sous la neige par sa propre fille. Immigrée en Israël en 1949, la mère de Ronen Bergman a gardé secrète une part de son histoire jusqu'à sa mort en 1993. L'Holocauste a été suspendu au-dessus de nos têtes comme une grande ombre toute notre vie, dit aujourd'hui Ronen Bergman. Son vif intérêt pour les enquêtes, pour les zones obscures de l'histoire et de la politique se manifeste dès le début de sa carrière. En 2002, son premier livre, rédigé grâce à des documents secrets provenant des archives de Yasser Arafat, expose la corruption au sein de l'autorité palestinienne. Point de non-retour et la guerre secrète avec l'Iran, deux ouvrages consacrés à la République islamique, l'imposent dans les médias comme l'un des spécialistes du Moyen-Orient. Raison pour laquelle la télévision britannique l'interview lorsque l'Iran menace publiquement de rayer Israël de la carte.
They are trying to convince the West that it needs to hold back Israel, and if you don't work against Iran, then Israel would go alone to destroy the Iranian nuclear project.
Dans les livres et articles qu'il rédige ensuite pour différents médias internationaux, Ronen Bergman sort de nombreuses coupes. En 2017, il reçoit le prix Sokolov, décerné au journaliste israélien. Lors de la remise, la présidente du jury rend hommage à sa contribution à la compréhension de ce qui se déroule derrière les portes closes du monde de la sécurité. Son dernier livre, « Lève-toi et tue le premier », l'histoire secrète des assassinats ciblés commandités par Israël, lui a demandé 8 ans de travail. Selon lui, en 70 ans d'existence, son pays aurait organisé 2700 assassinats ciblés. Ronen Bergman considère que depuis la création de l'État en 1948, les leaders israéliens ont privilégié les opérations secrètes et les assassinats pour éliminer ses ennemis sans passer par la guerre.
Lève-toi et tue le premier, voici l'ouvrage. Pourquoi Ronen Bergman, Israël, à travers le Mossad, son bras armé, a-t-il commandité plus d'exécutions extrajudiciaires que n'importe quel autre pays occidental depuis 1948?
Parce que David Ben-Gurion, le premier ministre, le fondateur de l'État, le plus grand juif de l'histoire, et peut-être dans la même classe que Moïse, il pensait qu'Israël devait essayer d'empêcher une guerre complète, qu'Israël ne pourrait pas endurer une guerre de longue durée, parce que tout d'abord, il dépendait des réservistes, et donc il fallait pouvoir mobiliser les forces, et il fallait avoir assez de renseignements. Donc dès la création d'Israël, l'État a dépendu d'une communauté de renseignements suffisante. Et donc, pour être alerté des frappes préventives de ses ennemis, mais l'intelligence, le renseignement ne fournit pas que des renseignements, il transforme le renseignement et amène des opérations au-delà des lignes ennemies, des opérations tout à fait ciblées, dont le but est de s'occuper des défis d'Israël grâce à des assassinats, des sabotages, des virus, pour essayer d'étendre les intervalles entre les guerres. Et c'est ce que Meir Nagan m'a dit. La victoire triomphante de la guerre des six jours ne se répétera pas. Nous avons besoin de nous occuper de tout et empêcher, et on aura une guerre totale que quand nous aurons l'épée sur le cou, sinon des opérations commando secrètes, et c'est pour cela qu'Israël utilise des assassinats ciblés plus que tout autre État, et ce depuis la Deuxième Guerre.
Il y a aussi parfois, Ronen Bergman, des légendes, des images, des idées reçues qui sont attachées à la légende du Mossad et de ses assassinats ciblés, qui s'avèrent fausses. On a par exemple en tête le film de Steven Spielberg, Munich, dans lequel il raconte, Steven Spielberg, que les terroristes membres du commando qui a assassiné 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 ont été ensuite exécutés un par un. Et ça, vous racontez que c'est faux.
Munich est un super film, mais du point de vue historique, c'est à 100% c'est de la fake news. Spielberg a été victime d'un escroc qui a dit qu'il était le commandant de cette équipe chargée des assassinats, mais en fait, c'était le commandant d'une équipe de bagagistes à l'aéroport Ben-Gurion. Le Mossad n'a pas pu tuer la plupart des commanditaires de Munich, mais le Mossad a commencé à viser des terroristes palestiniens en Europe du fait de Munich. Et c'est quelque chose que la première ministre Golda Meir a toujours empêché le Mossad de faire avant Munich. C'est ça les effets de Munich. Après Munich, elle a autorisé le Mossad à mener des opérations à Londres et à Paris. Hamshari a été payé ici. Un terroriste palestinien, et ça a convaincu Arafat de continuer de travailler en Europe. Que travailler en Europe, pardon, ça ne fonctionnait plus, et donc il s'est regroupé au Moyen-Orient, où il était plus facile pour le Mossad de s'occuper de lui.
Vous venez de citer Yasser Arafat. Sa chasse, écrivez-vous, a été la plus longue dans l'histoire du Mossad. Il y a eu quantité de tentatives d'assassinat ciblés et de tentatives de le supprimer. Arafat, Yasser Arafat est mort en France, à Clamart. Pour des raisons assez mystérieuses, aurait-il été la victime d'un assassinat à faible signature, comme vous l'écrivez ou comme peut-être certains le suggèrent, avec un dentifrice intoxiqué ou d'autres méthodes ?
Ça, c'est le seul endroit dans le livre où je dis très spécifiquement que c'est une question à laquelle je ne répondrai pas directement. Mais les spectateurs vont lire le chapitre et ils vont comprendre ce qui est arrivé à Arafat. Ariel Sharon, en mars 2004, on lui a demandé de venir voir Bush très rapidement. Et le président Bush a dit, on sait que vous prévoyez de tuer Arafat. Il faut que vous me promettiez de ne pas le faire. Ariel Sharon, premier ministre israélien, a dit, Monsieur le Président, je vois vos arguments. Bon, le président a compris. D'accord, oui, merci, mais promettez-le-moi. Monsieur le Président, vous développez un argument très intéressant. Et le président a insisté pour qu'on lui promette. Il n'avait pas le choix. Et en fin de compte, il a promis de ne pas tuer Arafat. Et très peu après, Arafat est mort à Paris, à l'hôpital. Et Uri Dan, un journaliste très proche de Sharon, a écrit dans ses mémoires à lui que Sharon entrera dans l'histoire comme étant la personne qui a tué Yasser Arafat sans l'assassiner.
Je vois votre point. Nadia, on évoque avec vous et Ronen Bergman le plan de paix présenté, ou en tout cas concocté par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pour Israël et Palestiniens.
Oui, et présenté donc aux Israéliens par Donald Trump, qui a suscité la colère des Palestiniens. Ça, on le sait, on l'a vu, on le constate. C'est plus surprenant et c'est intéressant. Il ne convainc pas non plus, ce plan, l'appareil sécuritaire israélien, qui n'a pas hésité à faire part dans la presse ces derniers jours de ses réticences publiquement dans le journal pour lequel vous travaillez. L'ancien chef du renseignement militaire écrit par exemple qu'Israël doit continuer de collaborer avec l'autorité palestinienne. Et il est rejoint par l'ex-spécialiste de la Cisjordanie au ministère du renseignement qui craint, lui, que l'annexion n'engage une escalade armée. Il ne partage pas du tout l'enthousiasme du gouvernement. Ça pose la question, les premiers ministres israéliens, en l'occurrence Netanyahou, est-ce qu'ils écoutent les hommes de renseignement du terrain ? Est-ce qu'ils prêtent attention et est-ce qu'ils les écoutent à ce qu'ils disent ?
Je crois que la raison provient des deux objectifs de la publication de ce plan. Premièrement, le but est de sauver Netanyahou des poursuites et de l'emprisonnement, et ensuite apporter la paix. Mais malheureusement, pour le deuxième but, bon, je suis sûr, avec une conviction 100%, que l'on n'atteindra aucun des buts. Netanyahou va quitter la scène de l'histoire très bientôt, il sera condamné. En tout cas, il sera poursuivi et s'il est condamné, il sera envoyé en prison pendant très longtemps parce que les délits desquels on l'accuse sont très très graves. Et si jamais il est condamné, il pourrait passer 4 à 7 ans en prison. Et ensuite, concernant le plan de Trump en tant que tel, il n'y a aucune chance dans le monde que les Palestiniens l'acceptent. Et je dirais que je suis très heureux que les Palestiniens ne puissent pas l'accepter parce que théoriquement, s'ils acceptaient, ils ne l'accepteront pas, mais s'ils acceptaient, ce plan, c'est la recette parfaite pour la guerre. Cela va provoquer une guerre civile parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Des petites enclaves de l'État juif au sein de l'État palestinien. Et donc, si demain, les colons ont beaucoup d'enfants, et si demain ils disent, bon, on a encore besoin d'un autre quartier, ils vont demander aux Palestiniens de leur offrir plus de terres. Et donc, ça n'arrivera jamais. Et puis, c'est là que les coups de feu vont démarrer. Et ensuite, en Israël, il y a les forces de défense, le Shin Bet, le Mossad. Ça sera une guerre totale. Donc, j'espère que ce plan n'arrivera jamais.